Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine. Le podcast qui accompagne les femmes à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je suis Christine Levicky, coach, entrepreneur, maman et femme qui ose briller sans retenue ni délai. Je suis l'auteur de plusieurs best-sellers, dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. Je crois que non seulement nous le pouvons, mais en plus nous le devons, car nous les femmes avons un rôle à jouer pour influencer l'avenir de notre humanité. Chaque lundi, dès 6h, je vous partage une conversation avec une personne inspirante. À travers les différents épisodes, je souhaite vous aider, selon vos désirs, à avoir une famille sereine et joyeuse, un métier qui vous fait kiffer, des finances dont vous pouvez être fière, du temps et de l'énergie pour prendre soin de vous et vous amuser, et une sexualité délicieuse et libérée. Bonne écoute! Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast à écouter avant de commencer votre journée. Je suis Christine Levicky, auteure des best-sellers J'arrête de râler et Wake Up, et à travers ces différents épisodes, je souhaite vous partager de nouvelles perspectives. De l'inspiration, bien évidemment, mais aussi des actions concrètes pour vous permettre de vivre la vie que vous avez choisie. Aujourd'hui, nous allons parler de fatigue et surtout de comment en sortir et retrouver notre vitalité avec mon invitée Esther Schmitt. Esther est naturopathe et experte en nutrition. Sa passion, c'est d'aider les personnes à retrouver leur pleine énergie pour qu'ils puissent accomplir tous leurs projets professionnels et personnels. Elle vient de publier son premier livre « J'arrête de me sentir fatiguée » aux éditions Erol, un livre que je connais bien car j'ai eu le plaisir de le préfacer. Esther est aussi conférencière et chroniqueuse sur France Bleu et France 3. Alors cet épisode est pour vous, si être crevé vous connaissez et vous aimeriez bien comprendre comment retrouver votre vitalité. Vous êtes souvent malade ou pas bien et cela vous empêche d'avancer sereinement dans votre vie. Vous ressentez le besoin de rebooster votre corps en douceur et de vous recharger émotionnellement. Vous passez une énergie folle à vous occuper des besoins des autres et vous sentez qu'il est grand temps que vous appreniez à prendre soin de vous. Alors dans cet épisode, nous aborderons les points suivants. Quelle est la différence entre la fatigue aiguë et chronique? Comment remédier rapidement à la fatigue? Qu'est-ce que la détox? Pourquoi elle peut être importante pour remédier à la fatigue et comment la pratiquer? Quel est le lien entre notre santé émotionnelle et notre santé physique? Et quelles sont les meilleures choses que nous pouvons faire pour commencer à prendre soin de nous? Alors bonjour Esther et bienvenue.
Bonjour Christine, bonjour.
Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre « J'arrête de me sentir fatiguée ».
Alors j'ai écrit ce livre l'année dernière, mais il est né il y a plusieurs années déjà parce que il se trouve que donc aujourd'hui moi je suis en pleine forme, je suis joyeuse, pleine de vie, j'ai une vie vraiment extraordinaire, mais j'ai pas toujours été l'Esther que je suis aujourd'hui. Et en fait il y a plusieurs années j'ai eu des gros problèmes de santé. En 2009, on m'a diagnostiqué une maladie inflammatoire de l'intestin. Ça a été la première des choses. Et puis, en 2011, j'ai eu la chance de mettre au monde mon premier enfant, Gaspard, qui a 9 ans aujourd'hui. Mais j'ai eu une grossesse facile, mais un accouchement extrêmement difficile parce que j'ai fait une affection très rare de grossesse qui s'appelle une prééclampsie. Et je suis vraiment passé très très près en fait de la catastrophe. Et en fait, suite à ces deux épisodes très difficiles, je me suis vraiment rendu compte en fait que j'avais une santé fragile, que j'étais au-delà, j'avais déjà passé en fait le stade de la fatigue, hein. J'étais en très mauvaise santé. Et en fait, un soir, j'ai écouté en fait ta superbe conférence, hein, qui s'appelle « Oser être brillant, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est important ?» Et en fait, quand j'ai entendu cette conférence, en fait, ça a fait un espèce de déclic dans ma tête, hein, parce que je me suis rendu compte en fait que j'avais plein de projets, plein de rêves, hein, que j'avais vraiment envie de me créer une vie absolument extraordinaire, mais qu'en fait, j'avais pas du tout la santé pour accomplir mes rêves. Et en fait, ça a été un déclic tellement fort que du coup, je me suis dit, ça y est, maintenant, il faut que je prenne soin de moi, que je prenne soin de mon corps. Et j'ai commencé à me soigner par différentes techniques. Et en fait, au fur et à mesure que je mettais en place des nouvelles choses, bah, ça a donné finalement tous les principes du livre que je partage aujourd'hui dans « J'arrête de me sentir fatiguée ». Et donc, c'est un pourquoi qui est très fort. C'est un pourquoi qui est très fort chez moi parce que ça m'a véritablement sauvée, en fait. Et je me suis dit que si ça m'a sauvée, moi, si ça m'a aidée, moi, bah, il est certain pour moi que ça peut aider, ça peut sauver d'autres personnes qui liront ce livre et qui peut-être aujourd'hui vont le lire dans un moment, en fait, où ils ne sont pas bien dans leur vie.
Donc, c'est ça ton intention avec ce livre. C'est vraiment de partager toutes les pistes, tout ce que tu as appris quand tu as voulu, toi, te remettre sur pied.
Oui.
Tout ce que tu as découvert. Après, tu as aussi ta formation de naturopathe, d'experte en nutrition. Donc, tu as voulu transmettre tout ça dans ton livre.
Oui, exactement. J'ai voulu transmettre, en fait, surtout des choses simples et faciles à mettre en place, parce que je me rends compte parfois que quand on est fatigué, quand on a des problèmes de santé, on a parfois des objectifs et des rêves qui sont très grands et très forts, et on ne sait pas finalement quel chemin emprunter pour pouvoir accomplir tout cela. Et pour moi, en fait, l'action dans la simplicité et la faisabilité, c'est hyper important. Parce que si on se fixe des objectifs beaucoup trop hauts, ça devient compliqué et du coup, on culpabilise beaucoup de ne pas réussir à faire. Alors que si on commence par mettre en place des petites actions toutes simples tous les jours, ça commence déjà en fait à changer notre vie. Et pour la santé, en fait, c'est primordial. Parce que la santé, souvent, quand on a un problème de fatigue qu'on traîne depuis très longtemps, ce n'est pas forcément en 2 jours que les choses vont se régler.
Alors, parlons un peu de fatigue. Qu'est-ce qu'on sait sur la fatigue? Est-ce qu'il y a différentes formes de fatigue? Parle-nous un petit peu de la fatigue.
Alors, moi, j'ai surtout identifié qu'il y avait deux grands types de fatigue, en fait. Il y a pour moi la fatigue aiguë, donc c'est vraiment la fatigue de tous les jours. C'est comme les maladies, en fait. Il y a les maladies aiguës et les maladies chroniques. Donc, quand c'est chronique, c'est que ça commence à devenir un petit peu plus grave. Et il y a aussi cette fameuse fatigue chronique. Ça veut dire qu'elle traîne déjà depuis longtemps et c'est vraiment quelque chose qu'on porte, nous, depuis trop longtemps. Et du coup, pour moi, cette différence, elle est fondamentale parce qu'on va pas les soigner, si je puis dire, entre guillemets, on va pas les soigner de la même façon. Donc, une fatigue aiguë, par exemple, ça peut être, je suis fatiguée quelques jours parce que j'ai peut-être, fait des excès alimentaires, j'ai peut-être fait trop la fête avec mes copains ou j'ai peut-être pas assez dormi. Et du coup, ça va s'installer sur quelques jours et il faut que je recadre le temps de quelques jours et ça se remet tout seul. En revanche, la fatigue chronique, c'est quand on a à l'intérieur de nous des choses qui vont venir nous plomber, mais qui vont venir vraiment alourdir notre quotidien. Et ça va se cumuler, en fait, journée après journée après journée. Et on peut se retrouver finalement au fil des mois à ne pas savoir comment se sortir de cette fatigue. Et une fois de plus, on ne va pas la traiter de la même façon. Donc pour moi, il faut vraiment faire le distinguo entre est-ce que je suis vraiment quelqu'un de fatigué depuis toujours ou depuis trop longtemps ? Ou alors, est-ce que je suis juste un petit peu crevée là parce qu'on est mercredi et puis j'ai peut-être trop fait la fête ce week-end et du coup, ça ne va pas être la même façon. On ne va pas s'en occuper de la même manière.
Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport… Comment remédier à la fatigue ? Comment savoir je t'écoute.
Comment savoir ? Alors, la fatigue, la petite fatigue, en fait, un petit peu post-week-end ou quand on est un petit peu fatigué après 15 jours, là, généralement, la première des choses pour moi, c'est déjà de se coucher plus tôt. Parce que le sommeil, en fait, pour moi, c'est une clé fondamentale pour la fatigue. Il a absolument des pouvoirs magiques. Parce que ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'effectivement, il y a toujours ce dicton qui dit que les heures avant minuit comptent double. Alors, est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas si c'est prouvé scientifiquement, mais ce qui est sûr, c'est que plus on va avancer notre heure de coucher, plus on va respecter en fait le processus de réparation que le corps en fait va faire pendant la nuit. Parce que pendant la nuit, en fait, il y a différents stades qui se produisent. Le premier stade, en fait, c'est la digestion. Donc là, on digère tout ce qu'on a mangé pendant la journée, mais on digère aussi tout ce qu'on sait manger entre guillemets pendant toute la journée. Donc toutes les émotions, le stress, les pensées, les idées fixe, tout ce qu'on rumine en fait au niveau du mental, ça aussi il va falloir que le corps en fait le digère. Une fois qu'il a fait ce travail de digestion, il va faire un travail de nettoyage parce qu'en fait on est des êtres vivants, on a des cellules, on a des liquides, sang, lymphe et des sérums et tout ce petit monde en fait, il va se nettoyer pendant la nuit. Une fois qu'il a fini de se nettoyer, là il va passer à la reconstruction. Donc on a des cellules qui vont mourir, on a des cellules qui vont naître, on a notre corps en fait qui va se renforcer et une fois que ce travail de revitalisation se fait pendant la nuit, eh bien, en fin de nuit, vers 5 heures du matin, on va avoir 2 heures en fait, où le corps en fait, il va se recharger au niveau du système immunitaire et au niveau du système nerveux. Et ça, c'est super important. Et du coup, qu'est-ce qui fait que si on décale toujours, si on a toujours tendance à se coucher tard, comme tu vois, 23h30, minuit, ce que les gens finalement font beaucoup, tu vois, surtout quand on est maman, on a des choses à faire, parfois on travaille encore un petit peu le soir, on va se coucher trop tard. Et du coup, bah, tout le processus va quand même se faire, mais ce sera toujours au détriment de la recharge du système nerveux et du système immunitaire, puisque ces deux phases, en fait, elles arrivent en dernier. D'où l'importance, en fait, de vraiment se coucher tôt. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Et après, effectivement, pour la petite fatigue aiguë, qui est assez facile à gérer, ben, on se couche plus tôt, on allège aussi la nutrition pendant quelques jours, parce qu'il est sûr, en fait, que quand on va manger, ben, beaucoup de choses qui vont venir un petit peu nous encrasser, si je puis dire, alourdir notre digestion, et ben, ça va prendre le corps, en fait, il va prendre énormément de temps, en fait, pour digérer, et le corps, en fait, il a besoin d'énergie pour pouvoir se requinquer. Donc, plus on va manger, donc plus on va favoriser la digestion, moins on va pouvoir, en fait, bah, se reposer intérieurement. Donc, dans ces cas-là, c'est vrai que quand on a tendance à manger beaucoup de féculents, beaucoup de pâtes, beaucoup de pain, beaucoup de sucre, du chocolat, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas en manger, hein, ce sont aussi des aliments plaisir, mais quand on est dans un moment où on a besoin de se recadrer un petit peu, dans ces cas-là, bah, il faut un petit peu changer les nutriments, les supprimer, ceux que je viens de nommer, et justement, bah, boire plus de jus, manger plus de fruits, manger plus de légumes, manger en fait des aliments qui vont justement nous nourrir, bien nous nourrir, et qui ne vont pas alourdir notre digestion. Donc, tout ce qui est gras, sucré, on met déjà de côté pendant quelques jours, on se couche un peu plus tôt, et généralement, ça va déjà beaucoup mieux rapidement.
Alors, tu parles aussi dans ton livre de la détox.
Oui.
En quoi la détox est importante dans notre relation à notre fatigue et pour améliorer notre fatigue ?
Eh bien, en fait, justement, alors, j'adore cette phrase, je dis toujours, le corps est fait pour trois choses, digérer, soigner et donner le chemin de vie. Donc, tant qu'il est en train de digérer, il ne peut pas se soigner. Et tant qu'il est en train de se soigner, il ne peut pas donner le chemin de vie. Pour moi, c'est une phrase qui est hyper puissante et qui a vraiment tout son sens. Tout se résume, en fait, dans cette phrase. Parce qu'effectivement, ben, quand on mange, le corps, en fait, il va prendre 70% de notre énergie pour digérer. C'est énorme. Donc, du coup, plus à un moment donné, on va le mettre en détoxification, c'est-à-dire en supprimant les aliments encrassants, comme en mettant de côté bah, le gras, le sucre, les féculents, en misant plus sur les légumes, les graines, une alimentation plutôt végétarienne, on va mettre de côté bah, plus le gras animal. Et bah, là, on va enclencher en fait, un processus d'auto-guérison, parce que le corps, en fait, il sait s'auto-guérir tout seul. Et justement, c'est pour ça que quand on prend l'habitude bah, toutes les semaines, par exemple, de faire une journée de jus, ou si au bout de 15 jours, par exemple, on se prend 2 jours et on va manger, par exemple, une journée que des fruits, et le lendemain, on va faire une journée de jus, par exemple, en ne buvant que des bons jus de légumes préparés chez soi, même si on les trouve en magasin bio, ça marche aussi. Et bah, en fait, on va simplement remettre l'énergie au service de notre auto-guérison. Et en fait, le problème de la fatigue, c'est que un corps fatigué, va toujours produire de l'acidité et c'est toujours sur un corps fatigué et acide qu'on va tomber malade. La maladie, en fait, quand on regarde bien, si on est vraiment honnête envers soi-même, on ne tombe pas malade quand on est heureux. On ne tombe pas malade quand on a la super pêche, mais généralement, c'est qu'on est toujours sur un terrain où à un moment donné, on a fait de l'excès quelque part et cet excès, en fait, à un moment donné, il va falloir le recadrer. Et c'est par la détox, justement, que ça va se passer. C'est pour ça que dans le livre, j'ai consacré en fait 7 jours à la nutrition et les personnes en fait qui ont déjà lu le livre m'ont déjà dit qu'au bout de 7 jours en appliquant les recettes qu'il y a dans le livre, elles se sentaient déjà moins fatiguées et beaucoup mieux. Comme quoi ça marche véritablement. Et le summum en fait, c'est qu'au jour numéro 7, on va faire une journée détox et là j'explique en fait dans le livre effectivement comment faire une cure de fruits et légumes, comment faire une cure de jus à la maison, comment s'y prendre pour pouvoir justement reprendre cette énergie et la mettre au service de notre auto-guérison au lieu de la mettre au service de la digestion.
Mmh. Et toi, tu vois la détox comme quelque chose à faire en préventif, c'est-à-dire c'est un rythme de vie, on se dit est-ce que tu recommandes un jour par semaine comme tu as dit tout à l'heure ou comment, quel rythme de vie tu proposes, quelle place la détox doit occuper dans notre quotidien et dans nos vies?
Alors pour moi, c'est toujours un appel du corps. C'est-à-dire que normalement, si on écoute bien son corps, on devrait recevoir le message. C'est qu'à un moment donné, effectivement, bah, quand on a l'impression d'avoir la tête dans le sac comme ça pendant quelques jours, on se lève, on est fatigué, on n'est pas bien, ou alors quand on a des humeurs un petit peu aussi très aléatoires, on a beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, une surcharge d'émotions négatives, je le mets entre guillemets parce que j'aime pas trop parler des émotions négatives, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment d'émotions négatives, mais sentir à un moment donné qu'on est sur un terrain un peu, on se sent pas bien, là, c'est un bon moment pour faire une détox. Après, effectivement, oui, pour répondre à ta question, c'est pour moi une prévention absolument extraordinaire parce que bah, moins le corps digère, plus il va pouvoir se réparer. Donc, c'est quand même ce qu'on cherche hein, finalement. Hein, ce qu'on cherche. En tout cas, ce que moi, je recherchais à l'époque, c'est d'être en bonne santé pour pouvoir vivre une vie super. Donc, en préventif, oui. Et après, de manière générale, je trouve qu'une journée par semaine, c'est bien, effectivement. Alors, soit effectivement, pour les initiés, on peut faire une journée de jus. Et puis pour les personnes qui n'ont jamais fait de journée de jus de leur vie, si elles ont un petit peu peur, bah, elles peuvent commencer par faire par exemple une monodiète. Donc on choisit un seul aliment, par exemple les pommes. En ce moment, c'est la saison des pommes en France. On peut faire une journée où on ne mange que des pommes. Donc ça peut être jus de pomme le matin, salade de pommes à midi, compote de pommes par exemple le soir. Et on fait ça pendant 3 repas. Et on mange rien d'autre, c'est une monodiète. Mais ça peut être en été une monodiète de pastèque, une monodiète de melon, une monodiète de carotte, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est de choisir qu'un seul aliment. Et effectivement, on fait ça une journée par semaine. Ça, si on arrive à mettre en place, ça change déjà énormément la force vitale du corps et ça va lui donner la capacité en fait, de s'auto-guérir. C'est curatif et préventif, en fait.
D'accord. Donc moi, je crois que tu le sais parce qu'on en a déjà parlé, Esther, je pratique depuis maintenant presque 2 ans le jeûne intermittent. C'est-à-dire que j'arrête de manger à 8 heures le soir et je dors et ensuite je ne mange pas le matin et je reprends mon alimentation après le déjeuner, et donc, enfin, à l'heure du déjeuner. Donc l'idée, c'est de donner à mon corps 16 heures de pause, donc 12 heures, je crois que c'est ça, ça fait 16 heures, j'ai un trou là dans mes...
Oui,
dans mes...
oui
c'est ça.
Oui,
de donner au corps 16 heures de pause, donc 12 heures pour digérer les aliments et ensuite je lui donne 4 heures pour se soigner, où justement il n'a plus rien à digérer, il a fait tout ce fameux travail de digestion et il a 4 heures pour se soigner. Donc je voulais savoir ce que tu pensais du jeûne intermittent, quelle est ton approche, est-ce que tu peux nous apprendre quelque chose là-dessus?
Oui, alors merci beaucoup pour cette question parce qu'effectivement elle me plaît beaucoup. Alors ce que je trouve génial effectivement dans le jeûne intermittent, c'est qu'effectivement, le fait de ne pas manger le matin, alors ça peut être par exemple de ne pas manger le soir, hein, un jeûne intermittent, ça peut être aussi de choisir de manger un petit déjeuner, de manger à midi et de ne pas manger le soir par exemple, c'est qu'effectivement, on va laisser la place en fait à l'auto-guérison. C'est-à-dire que le corps, effectivement, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, on va lui faire de la place, on va lui donner de l'énergie en fait pour qu'il puisse simplement s'auto-guérir. Donc sur le principe, c'est absolument génial. Et après, ce qu'il y a de génial en fait aussi dans cette méthode-là, c'est que on respecte en fait son écoute intérieure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de points de vue en fait autour de l'alimentation. Il y a un peu tout hein, finalement aujourd'hui. Hein. Quand tu vas sur Google et que tu regardes combien de fois on doit manger par jour, qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on doit mettre dans l'assiette, il y a un peu tout finalement et presque le contraire 5 minutes après. Et ce que je trouve génial dans le jeûne intermittent, c'est que on se limite à 2 repas par jour. Et bien souvent, c'est suffisant pour beaucoup de personnes. Parce que combien de personnes, en fait, parfois s'obligent à manger le matin parce qu'on a été éduqué comme ça, parce qu'on nous a dit qu'il fallait jamais partir à l'école le ventre vide, alors qu'en fait, bah, y a plein de gens qui ne sont pas faits pour manger le matin. Et ça, c'est vachement important, selon moi, de le respecter. Et pour moi, c'est aussi également pour les enfants, les petits-enfants et les adolescents. Donc, si on n'a pas faim le matin, on ne mange pas. Point. Et c'est tout, et manger à midi et manger le soir, pour des gabarits, des personnes qui vont peser par exemple 50 kilos, 60 kilos, même 70 kilos, 2 repas par jour, finalement, ça suffit amplement. Donc pour moi, c'est toujours à rapporter à la personne, à voir comment elle se sent. Donc c'est pour ça qu'il faut revenir à l'intérieur de soi et voir si c'est juste. Et les personnes qui ont vraiment besoin de manger le matin, bah, elles peuvent se faire une petite collation. Mais sur le principe, moi, je le pratique aussi, hein, ce qui est quand même assez fou, hein, parce que j'ai quand même pendant longtemps voulu écrire un livre sur les petits déjeuners. Moi, j'étais une grande adepte du petit déjeuner. Et là, ça fait à peu près un an et demi, que je ne mange plus le matin à 8 heures, comme j'avais envie, comme je le faisais en fait pendant très longtemps. Je vais prendre ce fameux petit déjeuner, mais bien souvent, comme vers midi, 13 heures.
C'est très intéressant parce que, en plus, dans ton, quand je t'ai entendu parler de ce thème du petit déjeuner qui te tenait tellement à cœur, tu faisais remarquer à quel point nos petits déjeuners sont très souvent composés de pain, de sucre, de farine blanche, de beurre, de sucre. Et donc, en fait, y a vraiment, on ne donne pas nécessairement à notre corps ce dont il a le plus besoin au petit déjeuner. Et d'ailleurs, dans ton livre, tu parles de ça, de plusieurs options d'autres choses qu'on peut manger au petit déjeuner qui ne sont pas axées sur le pain blanc et le sucre et le beurre. Bien que, enfin, je crois que tu n'aurais rien contre un bon beurre, mais
rien.
ni les confitures d'ailleurs, mais des confitures moins sucrées. En tout cas, moi, ce que j'ai remarqué dans cette pratique, c'est que souvent le matin, j'avais faim, mais c'est pas que j'avais faim, c'est que j'avais un appel du sucre, c'est que j'avais mon corps qui me disait ah, c'est le moment où tu vas avoir ta tartine, et du coup, tout mon être appelait la tartine, mais en fait, j'avais pas, c'était pas de la faim, c'était plus un réflexe corporel de mon corps d'avoir sa dose de sucre à ce moment-là. Et quand j'ai appris, ça m'a juste pris quelques jours à me sevrer de ça, je me suis rendu compte qu'en fait je n'avais pas faim le matin. Je pensais que j'avais faim le matin, mais j'avais pas faim, j'avais un appel du sucre, c'était différent.
Et ça, Christine, c'est génial ce que tu pointes, parce que pour moi c'est la différence que je fais, j'en parle également dans le livre, entre s'alimenter et se nourrir. Pour moi, ce sont deux concepts qui sont différents. Quand je me nourris, c'est qu'à un moment donné, je choisis de mettre le focus sur le bon carburant dont mon corps a besoin pour pouvoir avancer. Quand je m'alimente, c'est là où je vais peut-être rentrer dans cette alimentation plaisir, la demi-baguette avec un bon beurre et une bonne confiture. Moi, j'ai rien contre, mais je vais pas manger ça tous les matins parce que je sais que c'est pas ça qui va donner l'énergie dont mon corps a besoin pour pouvoir faire ce dont j'ai besoin la journée. Et effectivement, quand on choisit de se nourrir au lieu de s'alimenter, ce qui se passe à un moment donné, la bascule qui se produit et que toi, tu as déjà passé visiblement, c'est que finalement, au bout de quelques jours, quand le corps reçoit les bons nutriments, il ne va plus venir te titiller le matin avec le sucre parce qu'en fait, il a ce dont il a besoin. Et quand le corps a ce dont il a besoin, il ne va plus venir toquer à la porte pour nous dire « Allez, un petit carreau de chocolat le soir ». Moi, j'étais une grande adepte du chocolat le soir devant la télé. J'étais une grande adepte des petits déjeuners sucrés. Et en fait, maintenant, c'est terminé. Même les amandes, les noix qui sont quelque chose de très sain. Moi, j'en mange 3-4 et j'ai plus du tout envie de manger la moitié du paquet comme ça pouvait m'arriver avant. Parce qu'en fait, mon corps, en fait, à un moment donné, maintenant, il sait tout seul.
Voilà.
Donc, il sait tout seul. Et ça, quand on en arrive à ce moment-là, j'en parlais avec une personne avec qui je travaille en ce moment, je lui ai dit, en ce moment, moi, dans ma nutrition, j'ai l'impression qu'en fait, je suis arrivée à un moment d'extase. C'est vraiment le mot que j'ai utilisé, c'est l'extase, en fait. Parce que j'ai plus de fringales, j'ai une super énergie, j'ai plus envie d'aller de ce petit carreau de chocolat, etc. Mais si un jour j'en ai vraiment envie, entre 16h et 17h, je vais me l'octroyer, je vais m'en choisir un bon, mais je vais me le permettre. Mais j'ai plus ces petits trucs qui pouvaient venir me titiller avant, et quand on a passé cette bascule, je trouve que là, c'est extraordinaire.
Oui, parce que ce que je remarque, moi, ce que je dis aux personnes, donc ça peut être la détox, ça peut être ta méthode, ça peut être le jeûne intermittent. En tout cas, ce que j'ai remarqué dans cette démarche-là, c'est qu'à un moment donné, le corps se met à nous parler, mais vraiment, et à nous dire « j'ai envie de ça, j'ouvre le frigo ». Et puis vraiment, littéralement, mon corps me dit « prends l'avocat ». Et ce n'est pas que je me dis « il faudrait que je prenne l'avocat parce que c'est ça qui est bon pour moi ». C'est littéralement, mon corps me dit « tu as envie d'avocat ». Alors je dis « donc j'ai envie de ce qui est sain pour moi ». Et je n'ai plus envie de ce qui n'est pas sain pour moi. Et donc, il n'y a plus d'effort à faire. Il n'y a plus d'effort à se forcer à ne pas manger ce qui n'est pas bon pour nous. Parce que naturellement, le corps… Alors par contre, moi, tu parlais tout à l'heure de la petite sucrerie, le carré de chocolat à 16h ou 17h. Ce que je fais aussi, c'est que si par hasard, il y a eu des croissants au petit déjeuner ou une baguette fraîche ou quelque chose qui me fait envie, eh ben, je dis à tous mes enfants, vous m'en gardez un et je me le mange au goûter. Parce qu'effectivement, c'est le moment. Est-ce qu'on peut parler de ça, du goûter? Et
bien sûr, avec plaisir.
Et pourquoi cette heure-là est particulièrement propice à avoir un carré de chocolat ou une petite sucrerie ou un croissant, où c'est le moment où c'est le plus adapté pour ça?
Parce qu'en fait, on a des pics de cortisol que le corps sécrète en fait automatiquement pour tout le monde à différents moments de la journée. Le matin quand on se lève, à midi, un petit peu le soir, mais pas au niveau du goûter. Et en fait, à chaque pic de cortisol qui est sécrété, il y a une dose de sucre qui est envoyée dans le corps. Parce que le corps, en fait, il fabrique tout seul son sucre. Donc du coup, quand on apporte trop de sucre le matin, le midi et le soir, donc là, je ne parle pas du tout du goûter, on a du sucre, en fait, on a en fait un trop plein de sucre. Et concrètement, le soir, le corps ne sait pas quoi en faire, et particulièrement après 18 heures. Donc là, généralement, qu'est-ce qui se passe? Soit, ça encrasse le corps, ça fabrique des toxines, puisque le corps, il ne sait pas quoi en faire, donc il va aller les loger quelque part dans les cellules. cellules. Et puis, au bout d'un moment, quand on s'alimente comme ça tout le temps, ça finit par encrasser. Et le soir, après 18 heures, généralement, ça va venir se planquer dans les petits tissus adipeux. Et c'est pour ça que souvent, on a tendance aussi à prendre un petit peu du poids parce qu'on mange sucré à la mauvaise heure, généralement après 18 heures. Et du coup, comme on n'a pas ce fameux pic de cortisol, on a un petit peu une baisse d'énergie au moment du goûter. Et c'est là, en fait, où le corps, il va falloir nourrir le cerveau, il va falloir lui donner un petit coup de boost pour qu'il puisse, en fait, terminer sa journée correctement. Et donc, c'est en général vers 17-18 heures maximum dans cette fourchette-là où c'est bon de donner du sucre rapide, pour aller nourrir le cerveau de façon à ce qu'il puisse terminer sa journée avec encore les dernières tâches quotidiennes qu'il a à faire. Et après, on file au dodo. Mmh. Donc, le goûter, en fait, il a vraiment sa place. Moi, je dis souvent aux gens, si vous ne voulez pas manger le matin, reconnectez-vous avec le goûter et alors sacralisez-le, le goûter, quoi. Organisez-vous quelque chose qui vous fasse vraiment plaisir. Ça peut être des fruits, ça peut être un petit carreau de chocolat, ça peut être une banane, ça peut être des fruits secs. Et puis, une fois de temps en temps, si on a un super pâtissier à côté de chez soi ou comme un croissant, par exemple, pour toi, super, mais alors on prend rendez-vous avec le sucre. Et on l'honore, quoi. On prend rendez-vous avec lui, on lui fait sa fête. et on parle avec notre corps, on dit, là, c'est le bon moment. Puis j'adore cette pâtisserie. Et alors, je vais une fois par semaine au bon pâtissier du coin. Et alors, je vais me payer quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Et après, le reste dans la semaine, des fruits secs, un peu de chocolat. Ça peut être une tartine de confiture, un bon gâteau fait maison. Mais le sucre, plutôt entre 16 et 17 heures. C'est pour ça que les enfants, en fait, finalement, ce concept de goûter pour les gamins, ça a vraiment du sens aussi. C'est pour que, justement, ils tiennent un petit peu encore, justement, la fin de la journée, qu'ils puissent se mettre à table, manger quelque chose et aller se coucher sereinement.
Super. Alors là, on a passé toute la première partie de cette interview à parler de nutrition.
Mais c'est important.
C'est très important. Mais dans ton livre, tu ne parles pas que de nutrition. Tu passes aussi.
Non.
C'est un livre 21 jours, 21 jours pour travailler sur retrouver. Non, c'est ça, 21 jours pour renforcer notre système immunitaire et retrouver notre vitalité. Et dans ce livre, il y a 7 jours qui sont consacrés à la construction d'un mental robuste. Alors, quel est le lien avec la fatigue ?
Alors justement, le lien à la fatigue, il est là. Il est en fait dans cette notion de fatigue chronique. Donc, je l'ai expliqué au début de l'interview, qu'il y a la fatigue aiguë et la fatigue chronique. Et en fait, dans la fatigue chronique, généralement, c'est tout ce bavardage en fait mental qu'on va avoir avec souvent, on va discuter, on va avoir des peurs, on va avoir des points de vue qui généralement sont limitants, on va s'empêcher de faire des choses, on va procrastiner, plus on va procrastiner dans notre activité, plus on va culpabiliser souvent, ça vient avec. Et en fait, on a tout ce bavardage en fait dans la tête, on a des projets mais on ne sait pas comment les mettre en place, on pense qu'on est, pas assez bien pour le faire, ou qu'on n'a pas assez d'argent pour mettre ça en place, ou qu'on est jeune maman et que la priorité doit être nos enfants et donc on ne peut pas créer par exemple notre activité d'entrepreneur. En fait, c'est tout ce bavardage en fait qui va être extrêmement pesant et qui va prendre beaucoup d'énergie et qui va vraiment plomber à un moment donné notre fatigue. Donc pour moi, en fait, je ne pouvais pas écrire un livre pour expliquer en fait que la fatigue se règle juste avec la nutrition. Parce qu'aujourd'hui, finalement, quand tu vas un petit peu sur Internet et tu regardes des solutions par rapport à la fatigue, on en vient toujours à la nutrition ou au sommeil. Mais cette charge mentale, on en parle rarement. Et je trouve ça vraiment dommage parce que finalement, ça va venir aussi énormément plomber notre énergie. Et je trouve que là aussi, il y aurait des choses à faire pour justement se sentir beaucoup mieux.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour
construire Alors, moi, j'avais envie d'insister sur des choses qui m'ont beaucoup parlé à moi. Il y en a plein dans le livre, mais il y en a vraiment trois, moi, qui m'accompagnent tous les jours dans mon quotidien. Un, c'est le calme. Ramener du calme à l'intérieur de soi. On a des quotidiens qui sont parfois surchargés. On fait plein de choses, on a envie de sortir, de travailler, de créer, on a nos enfants, notre mari, notre femme, peu importe. Et parfois, on prend pas assez de temps en fait, juste à ne rien faire, juste être dans la contemplation, juste être dans admirer quelque chose, être dans un paysage, marcher dans la nature en silence, juste remettre un petit peu de calme dans notre quotidien. Donc ça, c'est une première chose qui a été fondamentale pour moi, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez dynamique, justement, et parfois, je suis dans le trop, et que je me suis vraiment rendu compte, en fait, qu'il fallait que je remette, en fait, de l'écologie intérieure. Et pour moi, l'écologie intérieure, à un moment donné, c'est de revenir dans le rien, quoi, pour remettre un peu d'équilibre. Et la deuxième chose, c'est tout ce qui était autour des points de vue. Moi, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup... j'avais beaucoup de points de vue, hein, moi, il y a quelques années, hein, comme quoi je ne pouvais pas développer mon activité professionnelle parce que j'avais des petits-enfants. Ça a été un point de vue en fait, qui a été longtemps, longtemps présent, que ma priorité, c'était mes gamins et que du coup, je ne pouvais rien faire d'autre à côté. Mais du coup, quelque part, je n'étais pas satisfaite. Mon âme, mon cœur, en fait, n'était pas satisfait parce que quelque part, je m'empêchais finalement d'avancer sur ma route. Et c'est bien de consacrer du temps à ses enfants, hein, j'ai pas de regrets par rapport à ça, mais ça veut pas dire que parce que j'ai des enfants, je pourrais plus rien faire à côté. Donc après, les points de vue, ça peut être des gens qui ont envie de changer de métier, mais qui n'osent pas, par exemple, faire les démarches pour déjà travailler sur leur propre développement personnel, pour voir ce qu'ils aimeraient faire. Parfois, on a l'impression qu'on est trop vieux pour commencer une formation. Tout ça, c'est des points de vue, en fait, qui nous empêchent d'avancer. Et je trouve que ça, c'est extrêmement toxique, en fait, pour soi. Et du coup, la troisième chose, et ça, je trouve qu'elle vient en fait en conclusion de ce concept du point de vue, c'est l'action. En fait, pour moi, l'action, en fait, c'est la solution pour tout, quoi. C'est si aujourd'hui, je n'ai pas le temps, qu'est-ce que je peux quand même faire, hein, quelle action, même si elle est toute petite, hein, qu'est-ce que je peux faire en fait pour moi, pour mon activité, pour mes enfants, pour mon quotidien, pour ma santé, pour nourrir mon énergie, pour ne plus être fatiguée. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, même si ça ne me prend que 5 minutes? Et si je pouvais juste prendre, par exemple, 5 minutes aujourd'hui et aller sur le balcon en silence et profiter du rayon de soleil? Et si je pouvais juste m'asseoir 10 minutes sur mon canapé et juste regarder ce beau tableau que je me suis offert la semaine dernière? Si je pouvais juste prendre une heure, par exemple, pour aller choisir une belle paire, par exemple, de boucles d'oreilles, on en parlait au début. Tu vois, quelque chose, par exemple, qui nous fasse plaisir. Lire quelques pages, écouter une conférence inspirante. Voilà, qu'est-ce que je vais prendre en fait, qu'est-ce que je vais mettre en place pour me nourrir moi? Et je sais combien c'est difficile, hein, parfois de procrastiner, de rester dans ce mental en fait, mais je l'ai été, hein, moi, beaucoup. Hein, on a d'ailleurs beaucoup travaillé ensemble, toi et moi, hein, rappelle-toi, hein, sur ça. Moi, je me rappellerai toujours, je t'avais parlé d'un projet que je voulais faire dans mon travail, et tu m'avais à un moment donné arrêté, tu m'avais dit, mais tu peux pas être dans ta cuisine. Et rêver des choses dans ta cuisine si tu ne mets pas une petite action en place. Et ça, je me rappelle que cette phrase avait fait un boom. Je me suis dit, mais c'est vrai. Et donc, à partir de demain, qu'est-ce que je fais? Mais je reste dans le faire. Donc, le calme, limiter les points de vue et surtout rester dans l'action, même si je suis fatiguée, même si je n'ai pas le moral, même si je suis en colère, même si je ne suis pas bien, qu'est-ce que je peux faire à la hauteur de la qualité de ma journée? Et demain, je ferai incontestablement mieux parce que demain sera un autre jour et le soleil reviendra peut-être dans mon cœur.
Reprendre en main. En fait, on peut laisser la journée se passer et décider à la fin de la journée si c'était une journée pourrie ou une journée géniale. Ou oui. On peut se lever le matin en se disant, il va se passer plein de choses aujourd'hui. Je vais être sollicitée de tous les côtés. Il y a trop de choses à faire et il n'y a pas assez de temps. Ok, tout ça c'est pareil pour tout le monde. Mais qu'est-ce que moi je vais faire aujourd'hui pour prendre soin de moi, pour que la journée soit agréable pour moi? Quelle va être la chose que je prends la responsabilité que cette chose se produise aujourd'hui, et ça va faire de cette journée une belle journée.
Exactement, et c'est pour ça que j'ai voulu commencer ce livre avec la nutrition, parce que quand moi j'ai réglé mon problème de nutrition, c'est-à-dire qu'à un moment donné je me suis dit maintenant je veux manger autrement, et quand je parlais d'extase justement tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui moi le sujet de la nutrition pour moi il est réglé, quoi. J'ai plus besoin moi de me demander aujourd'hui qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce qu'il faut que je mange, c'est plus un sujet pour moi, quoi. Parce que je me connais maintenant, je m'écoute, je me connais, et donc je peux prendre ce temps et le mettre au service d'autre chose. Donc moi aujourd'hui je suis vraiment au service de mon propre développement personnel, de mon activité, j'ai mes enfants qui grandissent, mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux que ça ne l'a été. Et je trouve que justement dans ce livre, ce qui est génial, c'est de faire ce parcours en fait tout en douceur, hein. Et finalement, petit à petit, avec une petite action, en 21 jours, on arrive déjà à changer quelque chose dans notre vie. Et c'est ça que j'avais envie de montrer, qu'en peu de temps, finalement, on peut faire quelque chose de grand pour soi.
C'est ça qui est vraiment agréable, en effet. C'est ton approche très pragmatique, très simple, très accessible. Dans ton livre, tu ne nous proposes pas de faire des trucs qu'on ne connaît pas. Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est vraiment tout est à portée de main, j'ai envie de dire. Tout est à portée de main pour le faire. Un petit pas à la fois, quoi. Tiens, aujourd'hui on va faire ça, tiens, demain on va faire ça. Et un petit pas.
Oui, un petit pas. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, là je vais vraiment parler que pour moi, mais moi il y a un moment donné, quand je suis rentrée dans le monde du développement personnel, il y a 8 ans, j'ai un moment donné, je pense que je me suis noyée aussi par toutes les techniques qui étaient proposées. Et je me rappelle que je faisais le Miracle Morning, je me levais le matin à 5 heures, je faisais ça pendant 2 heures et demie. Mais j'avais du mal. J'avais du mal parce que j'étais maman, que j'avais une petite fille que j'étais en train d'allaiter, j'avais un petit garçon de 4 ans, c'était difficile pour moi de me lever à 5 heures. C'était difficile aussi parfois de méditer tous les jours, une heure et demie, de faire encore en plus du yoga, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, si je ne peux pas faire tout ça, qu'est-ce que je peux faire en fait qui soit juste pour moi ? Et si c'est me lever à 6 heures et de faire quelque chose juste de 6 heures à 6 heures 15, parce que le matin, je n'ai pas plus de 15 minutes, mais au moins, je fais 15 minutes. Et en fait, c'est juste ça. C'est même si c'est un petit truc, qu'est-ce que je fais chaque jour ? Parce qu'il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure qui m'a énormément touchée, c'est quand tu parlais de ta capacité aujourd'hui à ouvrir le frigo et à choisir l'avocat et pas choisir le chocolat. Et bien, quand on est capable, en fait, à un moment donné, d'écouter nos points de vue limitants, quand on est capable d'écouter la maladie, quand on est capable d'écouter notre colère, et bien à un moment donné, on doit aussi être capable, je pense, d'écouter ce qui est bon pour nous. Et quand on commence à choisir l'avocat au lieu de choisir le chocolat, et quand on commence à choisir l'action et la petite méditation, même si c'est que 15 minutes, notre corps va nous parler. Et il va nous dire, mais ça, cette petite méditation du matin, c'est que 15 minutes, mais moi, ça me fait du bien. Est-ce que tu voudrais bien te lever encore demain matin pour me refaire faire ça parce que j'ai trouvé ça génial ? Et c'est vrai que si on est capable d'écouter ce qui ne va pas dans la vie, et souvent, on est bien capable d'écouter tous les problèmes, les râleries, les complications, les frustrations, les manques, etc. Mais quelque part, on doit aussi être capable d'écouter ce qui va bien. Et le corps, il sait nous dire quand il est content. Et à un moment donné, cette fameuse bascule, elle se fait aussi d'elle-même, parce qu'après, le chocolat, on ne le regarde plus, on va prendre l'avocat. On choisira le positif plutôt que le négatif. On choisira la joie plutôt que les pleurs. On choisira l'amour plutôt que la haine. Ça va se faire tout seul, en fait. Mais il faut commencer.
Il y a un beau message dans ton livre, vraiment, de réapprendre à s'écouter.
Exactement, oui.
Et c'est vrai qu'on vit des vies surstimulées, débordées, toujours à être inquiet de... être à la hauteur de ce qu'on pense que les autres attendent de nous, essayer de tout faire, jongler. Je dis parfois, on est un peu comme une poule à qui on a coupé la tête, on court dans tous les sens, on ne sait pas trop où on va. Et toi, là, tu nous invites à faire un retour à soi, à ralentir et à faire des petits choix différents, plein de petits choix différents sur la journée pour petit à petit s'honorer et réapprendre à être en lien avec nous-mêmes, avec notre corps, notre mental, notre âme qui nous parle, en fait.
Exactement, et être en lien avec soi, parce que ce qui marche pour moi ne marchera pas forcément pour quelqu'un d'autre, et ce qui a marché pour mon voisin, mon mari, ma femme ou mes enfants ne marchera pas forcément pour moi. Et on dit bien que l'important, c'est déjà de bien être aligné à l'intérieur pour que l'extérieur, en fait, finalement, s'aligne de lui-même. Et finalement, la nutrition, les émotions, le développement personnel, c'est ça finalement, c'est être en lien avec moi pour choisir ce qui est bon pour moi, et après le reste, normalement, si c'est juste, ça devrait s'enclencher tout seul. Alors, je dis au conditionnel, mais bien que moi, je le pratique maintenant dans ma vie, et je vois bien maintenant que dans la vie que j'ai aujourd'hui, les choses, en fait, c'est comme ça que les choses se passent dans ma vraie vie à moi. Voilà. Donc, moi, je peux témoigner et dire que c'est comme ça que ça marche, quoi. Ouais. Enfin, pour moi.
oui, non, c'est ça. C'est cette fine limite de dire je vous partage parce que je pense que ça peut beaucoup vous aider. Et en même temps, le plus important, c'est de vous écouter vous-même et que vous trouviez votre propre chemin. Tu prétends pas que tu as la formule magique ou quoi que ce soit, mais en même temps, tu dis quand même, j'ai appris des choses qui méritent vraiment d'être partagées parce que ça peut aider beaucoup de personnes. En tout cas, à naviguer et à trouver leur propre voie. Alors, donc bien évidemment, j'invite les auditeurs à se procurer le livre. J'arrête de me sentir fatiguée aux éditions Erol. Mais est-ce que, pour commencer, en attendant que les personnes aient le livre entre leurs mains, est-ce que tu as des petits conseils, des petits tips à nous dire sur ce qu'on pourrait faire dès maintenant, là, cette semaine, pour avancer sur ce chemin ?
Alors, boire des jus en nutrition, manger beaucoup de légumes, manger des fruits, manger des choses qui vont nous donner de la vitalité. Ça, c'est déjà important. Et même si on ne veut pas arrêter la baguette le matin, on ne l'arrête pas, mais on commence déjà par rajouter en fait, des nutriments qui vont donner de l'énergie. Donc, beaucoup de végétaux, s'acheter des beaux fruits qui nous font plaisir, acheter des beaux légumes, se préparer des jus si on a un extracteur. Tips numéro 2, le sport. Le mouvement. Alors, je dis le sport, mais je mets mouvement/mouvement. Parfois, on n'est pas tous faits pour courir ou faire des sports en équipe, mais si on peut faire un peu de yoga, on peut faire d'étirements, être dans le faire. Et moi, je parle du sport, ça n'a pas été ma porte d'entrée à moi. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à me mettre une hygiène sportive en place. Mais je pense que c'est indispensable. Et après, évidemment, toute la connexion à la nature, quoi. Dès que ça ne va pas, dès qu'on sent que, hop, on est trop dans le mental, on enfile ses baskets, on va faire un tour, on va se promener au bord du lac, on enlève les chaussures, on va marcher pieds nus dans la terre, dans la nature, on va se faire une belle rando, on emmène un bon pique-nique. Et je pense que ça, c'est déjà les premiers tips, en fait, à mettre en place. Et le dernier, c'est vraiment ça. C'est avant de tout changer, on commence déjà par rajouter ce qui est bon pour nous, même si on ne change rien à côté, parce que les choses après, elles vont changer d'elles-mêmes.
Alors, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, moi j'ai pris la résolution cette année. À chaque fois que je vais en nature, oui. je n'emmène plus mon téléphone. En fait, je réalisais que j'avais toujours mon téléphone et je voulais toujours prendre des photos. Et en fait, souvent ces photos, j'en fais rien. Honnêtement. Ouais. Soit ou alors si on est plusieurs avec les enfants et tout ça, y en a un qui prend son téléphone, donc on en a un qui pourra faire le selfie en haut de la montagne. Oui. Mais pour tout le monde, et après il envoie les photos à tout le monde et on n'a pas besoin d'avoir tous nos téléphones. Et j'ai remarqué que ça résonne un peu avec ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'importance de trouver du calme. Je pense qu'en ce moment, on vit à une époque où on doit apprendre à se sentir responsable de notre calme. Oui. Et ce que je veux dire par là, c'est que le calme, il n'est pas là. On est surstimulé, sollicité de tous les côtés. Et si on ne crée pas le calme, si on ne crée pas et qu'on ne va pas chercher le calme, on ne le trouvera pas. Et c'est extrêmement puissant d'être en nature, sans téléphone, sans stimulation, vraiment dans l'instant présent et de se laisser inspirer. Par ce qui est autour de nous. Ce que tu viens de dire aussi me fait penser à quand tu parlais du sport. Je remarque qu'en France, donc moi je vis aux États-Unis depuis 20 ans et je vis en Californie, qui est quand même une région très particulière en termes de développement personnel, en termes de santé, en termes de développement spirituel, consciousness et tout ça. Mais je remarque qu'en France, en tout cas les femmes, ont souvent un rapport au sport en disant il faut que je fasse du sport. C'est un peu un ultimatum, une épée de Damoclès. Il faut que je fasse du sport parce que sinon je vais pas être conforme à ce que je pense qu'on attend de moi, les autres attendent de moi, je vais avoir des kilos. Enfin, c'est une espèce de pression. Il faut faire du sport. Et moi, je voudrais vraiment inviter les auditeurs à se poser la question de c'est pas qu'il faut, c'est juste que faire du sport, c'est très agréable. C'est juste que ça fait beaucoup de bien à notre être. Et c'est pas une histoire de perdre des kilos, c'est pas une histoire de maigrir, c'est pas une histoire d'être conforme à ce que les autres attendent de nous. C'est une histoire d'être bien dans son corps. Et donc, je voudrais inviter les auditeurs à se poser la question de quel serait le sport que je pourrais trouver, ou l'acte, et j'ai même pas envie de l'appeler sport en fait, quelle serait l'activité physique, l'activité corporelle que je pourrais trouver qui me fait vraiment plaisir, qui fait vraiment chanter mon corps, mon cœur, j'allais dire, mais c'est mon corps. Cette activité où je me dis pas il faut que j'y aille et c'est pas bien si j'y vais pas, mais c'est l'activité où je me dis mais j'ai envie de le faire parce que je trouve ça chouette, ça m'amuse, ça me fait plaisir, ça me fait du bien, et de vraiment se partir dans une quête de trouver une ou plusieurs activités qui sont agréables pour vous et qui vraiment vous mettent en joie. Et vous font vraiment du bien, et retirer toute cette pression d'obligation. Quand on dit de faire du sport, c'est pas une obligation, c'est juste une invitation.
Il faut que ça reste un plaisir. Oui, c'est une invitation, et c'est exactement ce que tu soulignes. Hein. C'est choisir dans la joie. Si ça fait plaisir, en fait, si on est dans le plaisir, notre corps nous rendra du plaisir. Mmh. Donc, je suis contente effectivement que tu soulignes cela. Et voilà, moi je suis passée par là justement. Hein, je voyais bien effectivement que j'étais pas. Je suis pas une adepte par exemple du jogging, ou j'ai beaucoup de mal à courir, mais j'aime les choses douces. Voilà, donc je suis très adepte du pilates, je suis très adepte du yoga. Et en fait, moi ça va bien. Pour moi, en fait, ça me convient. Et c'est pour ça que je parle plus de mouvement. Tu parlais d'activité physique justement pour sortir de ce côté pression du sport qu'on se met énormément.
Voilà. J'ai l'intime conviction que quand on fait ce qui nous fait plaisir, notre âme nous parle. Et tu disais tout à l'heure, je ne sais plus quel terme tu utilisais, mais tu disais notre corps, à un moment donné, nous parle et nous donne la direction de notre vie. Ou je ne sais plus comment tu disais l'expression que tu utilisais. Mais notre corps, je pense que quand on fait ce qui nous fait plaisir, notre corps, mais vraiment plaisir, je ne parle pas du plaisir de, je ne sais pas comment dire, un vrai plaisir profond, Eh bien, en fait, notre corps nous parle et nous donne la direction de notre vie, va nous guider et va nous dire, tiens, tu devrais regarder cette activité ou regarder ce programme. Enfin, je ne sais pas, on a une espèce de guidance intérieure qui se réveille, qui s'active en nous quand on s'honore et quand on fait ce qui nous fait du bien et quand on fait ce qui nous fait plaisir.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et ça viendra aussi justement quand on aura, quand justement on sera plus fatigué, quand on aura, c'est cette clairvoyance en fait. Hein. Moi, j'appelle ça en fait de la clairvoyance. Pour moi, c'est de la clairvoyance. Mais cette clairvoyance, effectivement, elle vient aussi à un moment donné quand on a une alimentation qui soit aussi riche en bons nutriments. Parce que quand on a une alimentation, pour revenir juste sur l'alimentation, c'est vrai que plus on va avoir une alimentation qui va être plombante, encrassante, c'est justement cette lucidité, cette clairvoyance dont tu parles, on va y avoir plus difficilement accès.
Oui.
Et si tous les soirs on se couche à minuit en ayant bu plein de café, en ayant mangé beaucoup de pâtes, de pain, voilà, et ben encore une fois de plus, cette clairvoyance, elle mettra du temps à arriver. C'est pour ça que pour moi, c'est travailler vraiment avec douceur, bienveillance et sans jugement sur l'ensemble des pôles, mais travailler un petit peu tous les jours sur chaque chose.
Ouais. C'est intéressant. C'est marrant parce que je me sens vraiment là-dedans en ce moment. J'ai fait ce jeûne intermittent pendant des semaines, enfin pendant des mois, maintenant des années. Et là, maintenant, je remarque que j'ai retrouvé la magie de la vie, des moments vraiment où il se passe des choses incroyables, où je me dépasse, où je suis dans une espèce de flot de la vie. Et là, je suis en train de comprendre que ma nutrition a un impact là-dessus, vraiment. J'ai retrouvé la vitalité, mais là, maintenant, j'ai envie de mettre vraiment que ce que je mange m'aide à être encore plus souvent dans le flot, encore plus souvent dans la magie, parce qu'en effet, j'ai conscience que certains aliments et qu'une certaine manière de manger peut me plomber, en fait, et du coup, m'empêcher d'accéder, parce que mon corps va être occupé à digérer, et du coup, quand il sera occupé à digérer ce truc que je lui aurais donné, les lasagnes ou un truc comme ça, le dîner, toute cette énergie-là ne pourra pas être allouée
à la créativité, à la clairvoyance, à l'ouverture d'esprit.
Voilà, super. Et... écoute, on arrive à la fin de cet épisode. On aurait pu en parler pendant des heures. On arrive à la fin de cet épisode. Alors donc, procurez-vous le livre « J'arrête de me sentir fatiguée » aux éditions Erol. Sinon, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver? Ton site internet, les réseaux sociaux? Quel est le meilleur moyen d'être en lien avec toi?
Alors déjà, sur les réseaux sociaux, j'ai un compte Facebook, Esther Schmidt, et j'ai créé un groupe qui s'appelle « J'arrête de me sentir fatiguée », justement, où j'avais envie de réunir tous les lecteurs ou toutes les personnes qui ont envie de lire le livre. Donc, c'est un groupe que j'ai fondé, où je donne beaucoup, beaucoup de contenu, justement, des recettes végétariennes, véganes, mais flexitariennes aussi, parce que moi, je mange de tout, donc je partage tout. Je partage vraiment plein de petits conseils sympas, et puis on se fait des petits challenges aussi entre nous de détox, justement. Donc, c'est un groupe qui s'appelle « J'arrête de me sentir fatiguée », il se trouve facilement sur Facebook, il y a juste à faire la demande, j'accepte, et puis hop, on est parti tous ensemble. Après, j'ai un site internet, www.estherschmidt.com, et je suis aussi, j'ai une page Instagram où je partage aussi beaucoup de contenu, beaucoup de recettes, on me trouve sous Esther Schmidt. Et voilà, je crois que c'est tout, mais je crois que c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, c'est déjà très bien, c'est déjà très bien. Ben écoute, merci beaucoup Esther,
merci,
et à très bientôt.
Merci à vous, merci infiniment, à bientôt.
Si vous avez aimé cet épisode et que vous avez envie d'enchaîner avec un autre ou deux autres, je vous invite à découvrir l'épisode 5 que j'avais enregistré avec Esther au début de la crise sanitaire du Covid. Le thème de cet épisode, booster notre système immunitaire. Vous pouvez aussi découvrir l'épisode 7 sur le thème oser être brillant, qui reprend certains des enseignements clés de la grande conférence Oser être brillant, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est important, dont Esther vous a parlé aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcasts, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com. À bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous partager des ressources pour vous aider à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme préférée. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Vous pouvez aussi partager l'épisode que vous venez d'écouter avec votre entourage si vous pensez que cela pourrait les intéresser. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé un programme vidéo sur 5 jours gratuit pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous le trouverez sur mon site www.christinelevicky.com. À bientôt pour un nouvel épisode.